VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La Cour constitutionnelle du Zimbabwe a commencé à examiner aujourd'hui une requête de l'opposition visant à annuler l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa. Un recours qui semble toutefois avoir peu de chances d'aboutir malgré les accusations de fraude. L'audience de ce mercredi est diffusée en direct par la télévision publique au Zimbabwe. Les 9 juges de la plus haute instance juridique du pays doivent rendre leur verdict d'ici à vendredi. La requête du MDC, principal parti d'opposition, a déjà provoqué le report de la cérémonie d'investiture du président Mnangagwa, initialement prévue le 12 août. Si la Cour confirme sa victoire, elle doit se tenir dans les 48 heures qui suivent la décision. Au Congo-Brazzaville, le pasteur Ntumi, vu pour la première fois en public, c'était au village de Miété, dans le Poule, où il a rencontré une délégation gouvernementale. Il a invité les membres de la commission de paix à s'occuper prioritairement de lui, avant de procéder au ramassage des armes dans le Poule. À Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
C'est un pasteur Ntumi serein et rassuré, habillé en jean bleu, que les membres de la commission de paix ont rencontré à Miété dans le district de Kindamba. Dans un échange réservé, les deux parties ont évoqué leurs difficultés dans la mise en œuvre de l'accord de paix conclu en décembre 2017. Pour Séraphin Ondélé, le président de cette commission, Ntumi doit mettre la main dans la pâte pour permettre le ramassage des armes encore entre les mains de ces miliciens.
Nous croyons que vous êtes devenu un homme de paix. Nous venons vous dire, ma commission et moi, nous venons vous dire que nous sommes limités. Nous avons travaillé, oui. Nous sommes fiers d'avoir travaillé. Et maintenant, nous sollicitons que vous preniez le relais parce que c'est vous qui avez signé les accords de paix. Nous sommes que des ouvriers. Maintenant, nous sommes bloqués.
Le chef rebelle du Poule a indiqué que le ramassage des armes n'était pas une priorité. Il fallait s'attaquer au mal à la racine. Ntumi s'est lui-même présenté comme le premier ex-combattant à réinsérer.
Et c'est pas le ramassage des armes qui va assurer les gens, mais ce sont les cœurs des gens. J'ai des enfants comme vous aussi, vous avez des enfants. À bientôt, il va pleuvoir. Comment je veux faire? Je veux repartir dans la forêt, trouver encore les feuilles pour faire encore des huttes. Et quand je vous rappelle ça, vous allez transformer pour dire que non, voilà, il pose des conditions, voilà ce qu'il dit, voilà, c'est peut-être qu'il veut pas, voilà, voilà. Alors que nous avons signé, c'est la partie gouvernementale qui a bloqué. Si nous sommes détenteurs d'une arme et que nous avons fait la paix, cette arme ne sert à rien. Nous devons la déposer, nous devons la remettre. C'est pas ce qui est plus important. On peut remettre une arme, mais la situation qui a provoqué que un tel prenne une arme, si on ne l'a pas réglé, finalement c'est comme si ce qu'on a fait, on était comme des animaux seulement qui se sont battus.
C'est pour la première fois depuis le déclenchement du conflit dans le Poule en avril 2016 que le pasteur Ntumi s'est montré en public. Par ailleurs, aucun agenda précis de l'opération du ramassage des armes n'a été arrêté. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Merci Arsène. Une délégation du Conseil œcuménique des Églises, la COE, en visite en République démocratique du Congo, a exprimé son inquiétude mardi sur le processus électoral censé conduire à l'organisation de la présidentielle le 23 décembre dans ce pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. La COE a exprimé ses inquiétudes sur la question des électeurs inscrits sans empreinte digitale, du besoin de consensus et de confiance sur l'utilisation de la machine à voter, ainsi que sur le cas des prisonniers et des exilés politiques en République démocratique du Congo. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé hier au moins 46 candidatures pour la présidentielle qui se tiendra à la fin de l'année, dont celle des 3 derniers présidents du pays. Le point avec Irénée Manoubou.
La plus haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici à dimanche la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin des 7 novembre et 19 décembre prochains. Parmi les nombreux postulants, il y a l'actuel président R. Rajomanapiam, élu il y a 5 ans, et ses deux prédécesseurs, Ange Razoel et Mac Ravalomanan. Ces deux frères ennemis passés à l'opposition avait été interdit de participer au dernier scrutin suite à un accord pour mettre fin aux crises à répétition dans ce pays pauvre de l'océan Indien. M. Ravalomanan avait été contraint en 2009 de quitter le pouvoir après un coup de force de l'armée qui avait alors placé son jeune rival Radjoel à la tête du pays. Il y a aussi d'anciens premiers ministres et même l'ex-président Didier Ratsirak, à 81 ans, qui avait dirigé le pays d'une main de fer de 1975 à 1993.
Human Rights Watch a dénoncé hier le climat de peur instauré par les agences de sécurité au Nigeria. Deux journalistes sont jugés actuellement pour l'exercice de leur profession. Raissa Girondin.
Plusieurs arrestations et détentions récentes de journalistes au Nigeria suggèrent une tendance inquiétante à la répression de la liberté d'expression, affirme Human Rights Watch. John Sabiri, du Weekly Source Newspaper, a été arrêté par l'Agence nationale de renseignement et gardé au secret pendant 2 ans sans procès pour ses liens présumés avec des rebelles du delta du Niger. Il a été libéré sous caution le 16 août. Son procès commencera le 5 septembre à Abuja. Samuel Ogundimpe, du site en ligne Premium Times, a été arrêté à la mi-août, puis libéré sous caution après avoir dévoilé un rapport confidentiel sur la prise de contrôle du Parlement par des agences de sécurité. Il doit comparaître demain devant la justice. Human Rights Watch appelle les autorités nigérianes à mettre fin à tout harcèlement de journalistes et veiller à ce que les membres de la presse puissent opérer sans peur.
Ethiopian Airlines a acquis des parts dans 4 compagnies aériennes africaines et a commencé à en gérer une 5e. Ethiopian Airlines a conclu des accords lui garantissant notamment d'obtenir 49% des parts des compagnies nationales de Guinée et du Tchad, 45% de Zambia Airways, a créé une compagnie du Mozambique au Mozambique qu'elle détient entièrement et a commencé à gérer Equatorial Guinea Airlines, a expliqué à l'AFP son directeur général. Selon M. Tewolde Gebremariam, Ethiopian Airlines est le premier transporteur africain et a transporté 10,6 millions de passagers sur l'année budgétaire éthiopienne 2017-2018 qui a pris fin le 8 juillet. Rome espère qu'une solution pourra être trouvée dès ce mercredi pour les 177 migrants bloqués depuis près d'une semaine à bord d'un navire des gardes-côtes italiens, alors que des voix s'élèvent pour dénoncer cette prise d'otage. Le gouvernement retient en otage 177 êtres humains, a ainsi affirmé hier soir l'écrivain antimafia Roberto Saviano, bête noire du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. L'auteur de Gomorra juge que le blocage de ces migrants dans le port de Catane en Sicile est un cas grave et illégal de séquestration de personnes. Le ministre italien des Transports, dont dépendent les gardes-côtes italiens, a de son côté dit espérer qu'une solution rapide pour ces migrants secourus en mer dans la nuit de mercredi à jeudi par le navire italien Di Ciotti.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h07, au troisième jour de leur émouvante retrouvaille. Des Coréens du Nord et du Sud appartenant à des familles divisées depuis la guerre se préparaient ce mercredi à se dire au revoir, cette fois probablement pour toujours. La majorité des participants à ces réunions organisées depuis lundi dans la station nord-coréenne du Mont Kumgang ont plus de 80 ans et rien ne permet d'espérer dans un proche avenir la libre circulation des hommes, des personnes sur la péninsule. Le secrétariat général de l'Organisation des États américains, OEA, a demandé hier à ne pas reconnaître les décisions illégitimes rendues par le tribunal suprême du Venezuela, notamment ses demandes d'extradition en lien avec l'attentat présumé contre Nicolas Maduro. Le secrétariat général de l'organisation dirigé par Luis Almagro, une personnalité très critique à l'égard du président vénézuélien, a déclaré dans un communiqué que les demandes d'extradition formulées par l'illégitime tribunal suprême de justice de la dictature doivent être rejetées unanimement par la communauté internationale. Les États-Unis ne cherchent pas un renversement du régime iranien, mais à obtenir de sa part un changement radical de comportement, a dit aujourd'hui le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump. John Bolton a évoqué devant la presse à Jérusalem la décision de M. Trump de rétablir les sanctions à l'encontre de la République islamique ainsi que les manifestations survenues ces derniers mois en Iran. Et puis l'ouragan Lane s'est hissé à la catégorie 5, le maximum, alors qu'il se dirige vers Hawaï et est susceptible d'infliger à l'archipel américain du Pacifique pluies torrentielles, inondations et glissements de terrain qui mettent en garde, c'est une mise en garde des météorologistes. L'œil de l'ouragan devrait se situer très près ou même passer au-dessus des principales îles de Hawaï entre jeudi et samedi, selon le Centre national chargé de la surveillance des ouragans à Honolulu. Lane est accompagné de vents pouvant atteindre une vitesse de 160 miles, soit 260 km à l'heure. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.